Chers amis de Radio Salve Regina, bonjour. Lucille avec vous pour une autre émission de Storia e Storie. En ce moment, vous le savez, nous continuons l'histoire de l'Aiglon, ce fils de Napoléon qui a été si tristement privé non seulement de son royaume, mais de son père. Ce père qu'il aimait tant et qu'il aimera toute sa vie. Et ça va être vraiment un amour décuplé pour tous les deux par l'absence. Hein, chacun pense énormément à l'autre. Alors, donc, nous sommes à Rambouillet. L'impératrice s'est installée. Elle doit rencontrer son père, l'empereur d'Autriche. Il n'est pas là, mais il arrive. Alors, elle voit Caulaincourt, le ben des bras droits, un des proches de Napoléon. Elle n'a qu'une envie, c'est d'aller à l'île d'Elbe. Et elle dit le consoler dans sa mauvaise fortune et adoucir son sort. Donc, elle veut le rejoindre. Mais évidemment, elle a des sentiments contradictoires. Et elle a besoin de la protection de son père. Elle est jeune. Elle est jeune, elle a quitté l'Autriche. Elle était entourée de gens qui ne l'aimaient pas forcément beaucoup. La famille de Napoléon n'était pas tendre. Pour tout ce qui était, lui était étranger, ils ont été odieux avec Joséphine et pas mieux avec Marie-Louise. La reine Hortense n'a pas été, est venue la voir, mais n'a pas été très agréable avec elle. Donc Hortense quitte Rambouillet et la voiture de l'empereur d'Autriche et de Metternich, bien sûr, le premier ministre, le grand Manitou Metternich, hein, arrive au château de Rambouillet. Marie-Louise est déjà sur le perron avec son fils et, grâce à Dieu, la gouvernante qu'aime tant l'Aiglon, Madame de Montesquieu, qu'il appelait Maman Q. Il y a quelques officiers et quelques dames. Le petit prince est calme, à la surprise de ceux qui l'ont vu se rebeller peu de jours auparavant. Madame de Montesquieu l'a-t-elle raisonné en lui expliquant qu'il ne s'agit qu'un de ses devoirs de cour auxquels il doit se plier avec grâce? Au moment où s'arrête le carrosse, l'impératrice et son fils s'avancent sur le perron. Revoir son père, après tant d'événements et d'épreuves, lui fait perdre ses moyens. Brisé par l'émotion, incapable de prononcer la moindre parole, elle a un geste qu'elle n'avait certainement pas prévu. Elle se saisit de son fils et le met dans les bras de son grand-père, en balbutiant quelques mots d'allemand incompréhensibles pour son entourage. Elle veut certainement mettre l'enfant sous la protection de son père, sans comprendre que cette fois-ci, ça n'est plus Napoléon l'ogre, mais ce sera son père. De son côté, l'enfant, habitué à susciter l'admiration, use de son charme auprès de son grand-père auquel il baise la main. En profite-t-il pour dévisager cet homme qui a fait la guerre à son père et a contribué à la fin de son empire? L'empereur d'Autriche est ému devant ses boucles blondes et ses grands yeux bleus. « C'est bien mon sang qui coule dans ses veines », murmure-t-il. Et oui, il est blond aux yeux bleus comme sa mère. Il oubliait, l'empereur d'Autriche, que Napoléon aussi avait les yeux clairs, très clairs. On le voit sur certains portraits. Peut-être plus gris que bleu, mais les yeux très clairs. Bon, mais lui ne voit que ses traits à lui. Il est vrai qu'il ressemble à sa mère. C'est un prince autrichien, il n'y a rien à dire. Comme le fils de Marie-Antoinette et les quelques portraits qu'on a, ce sont des princes autrichiens. Hein. Et donc, il est ému. Et puis, il se retire avec sa fille. Ils se retirent tous les deux. Quant au petit prince, il regagne ses appartements au bras de sa gouvernante, à laquelle il dit: « Je viens de voir l'empereur d'Autriche, il n'est pas beau !» Voilà. Par ces mots enfantins et lapidaires, le fils de Napoléon signifie à son entourage qu'il n'est pas dupe. Il sait à qui il est confronté. Comment aurait-il effacé de sa mémoire les derniers moments passés aux Tuileries avec son père, qui lui faisait répéter « Allons battre papa François !» Ce même homme est responsable aujourd'hui des angoisses et des larmes de sa mère. D'où la méfiance de l'enfant. C'est un enfant très intelligent. Il est petit, il a subi déjà beaucoup d'épreuves. Et ça a aiguisé son intelligence. Pendant ce temps, père et fille se retrouvent. Marie-Louise est en sanglots, Selon Meneval, l'empereur se montre avant tout rassurant et apaisant. Il console sa fille, l'entoure de douceur et il essaie de se faire excuser, disant qu'il était absent, qu'il n'a pas pu agir. Et il l'invite à venir en Autriche auprès des siens avant de gagner son duché de Parme, puis pourquoi pas l'île d'Elbe. Et quand même, il essaie de la convaincre, parce que je pense qu'il n'a aucune envie de la voir repartir avec Napoléon à l'île d'Elbe. Une des principales inquiétudes de la jeune femme porte sur l'avenir de son fils. Sur ce sujet aussi, l'empereur se montre réconfortant. Il demande qu'on fasse revenir l'enfant, commence à l'observer, à le cajoler. Attendri, il se tourne vers sa fille pour lui dire qu'il le prendra sous sa protection, qu'il lui servira de père. Comment réagit le petit prince à ces nouvelles démonstrations? Il ne semble ni ému, ni irrité, supporte avec docilité le regard inquisiteur de son aïeul. Il convient ici de relever un trait de caractère qui est en train de prendre corps chez l'enfant. Lorsqu'il se trouve en position délicate, il devient comme étranger aux autres et met un soin particulier à être observé autant qu'il observe, comme pour éviter d'avoir à donner sa confiance. À l'issue de la rencontre, Marie-Louise paraît tranquillisée, peut-être pas sur son sort personnel, mais sur son avenir proche. Elle a accepté de séjourner en Autriche avec la perspective de se rendre dans ses états, puisque on l'a faite duchesse de Parme, grande duchesse de Parme. Elle pourra donc y jouir d'une liberté complète qui lui permettra de rejoindre l'île d'Elbe. Par égard pour sa fille, François Ier d'Autriche, puisqu'il était de François II du Saint-Empire romain germanique, il est devenu François Ier d'Autriche. Je ne l'appellerai jamais François Ier parce qu'après, je n'aime pas le confondre avec le roi de France, qui pourtant ne valait pas grand-chose non plus. À part avoir bâti Chambord, je ne sais pas trop ce qu'il a fait de bien, François Ier. Les guerres de religion ont pris une proportion terrible sous son règne. Il a envoyé ses enfants en otage et ils en ont beaucoup souffert. Voilà, donc François Ier n'était pas quelqu'un de bien, je préfère dire l'empereur d'Autriche. Alors il écrit à Napoléon, il écrit à son gendre: « Je ne suis que trop convaincu que la santé de votre épouse a prodigieusement souffert depuis que je l'ai vue. Je me suis décidé à le proposer de se rendre quelques mois dans le sein de sa famille. Elle a trop besoin de calme et de repos. Et votre majesté, donc il appelle Napoléon votre majesté, hein, on lui dira toujours sire et votre majesté, et votre majesté lui a donné trop de preuves de véritable attachement pour que je ne sois pas convaincu qu'elle partagera mes vœux à cet égard et qu'elle approuvera ma détermination. Rendue à la santé, ma fille ira prendre possession de son pays, ce qui la rapprochera tout naturellement du séjour de votre majesté à l'île d'Elbe. Il serait sans doute superflu que je vous donnasse l'assurance que son fils fera partie de ma famille et que pendant son séjour dans mes états, je partagerai les soins que lui voue sa mère. » Il s'agit de la dernière lettre écrite par l'empereur d'Autriche à son gendre. Le soir même, Marie-Louise est en proie à la plus vive mélancolie. Au fond d'elle-même, elle sait qu'elle a troqué la tranquillité qu'elle va trouver auprès de son père contre ses retrouvailles avec Napoléon. Elle n'ose se l'avouer et lui écrit une lettre d'amour inconsolable où elle s'en prend à son père. « Il m'empêche de te rejoindre, de te voir. Il ne veut pas me permettre de faire le voyage avec toi. Il m'a dit qu'il ne le voulait pas, qu'il voulait que je passe 2 mois en Autriche et qu'après je m'en aille à Parme. » Évidemment, elle exagère un peu. Mais il est certain que son père ne la laisserait pas aller à l'île d'Elbe, qu'il ne veut pas. Mais elle accuse vraiment avec beaucoup de véhémence. Mais elle aime Napoléon parce qu'il a été très, très amoureux et très bon avec elle. Il l'a couverte de cadeaux, il l'appelait « ma bonne Louise ». Hein, il avait une existence très bourgeoise, comme elle avait connu à la cour d'Autriche, où il n'y avait pas cette étiquette de la cour de France que Napoléon avait reproduite aux Tuileries, l'étiquette de l'ancien régime, des anciens rois. Donc il était très bon avec Marie-Louise, et c'était un père attentionné. Et Marie-Louise n'avait jamais été entourée d'affection. À Vienne, c'était une vie de famille, avec la deuxième épouse de son père, ses frères et sœurs, mais elle n'a jamais connu cette affection et cet amour sincère dont l'a entouré Napoléon. Elle était toute jeune et il était attendri par Marie-Louise. Il a vraiment aimé Marie-Louise, différemment de Joséphine, qui était une séductrice, une femme déjà d'un certain âge, mais Marie-Louise l'a attendri beaucoup. Donc elle aussi l'aimait. Et le lendemain, on prépare le voyage vers l'Autriche. Dès le lendemain, Metternich confie la responsabilité du voyage au prince Trautmansdorff, grand maître de la maison de l'empereur. La femme et le fils de Napoléon sont désormais aux mains de l'Autriche. Aux grilles du château de Compiègne, les sentinelles autrichiennes remplacent les gardes russes. Évidemment, c'était déjà les alliés, hein. Il faut attendre le départ encore 3 jours, le temps à Paris d'arranger et d'emballer les souvenirs qui les suivront jusqu'à Vienne. Nous y reviendrons sur ces souvenirs. Avant son départ, l'empereur d'Autriche impose une dernière épreuve à sa fille. Malgré sa santé chancelante, il lui demande de recevoir le tsar et le roi de Prusse. Pour Meneval, donc, qui était un aide de camp de Napoléon, ces visites de ceux qui ont détrôné Napoléon sont un moyen pour François de signifier à l'opinion que Marie-Louise ne fait pas cause commune avec l'empereur déchu. Il veut montrer que sa fille est sa fille et qu'elle est dans le camp autrichien. Et elle accepte, Marie-Louise, elle n'est pas en état de refuser quoi que ce soit à son père. Le tsar Alexandre arrive à Rambouillet le 19. Le souverain russe a beau se montrer prévenant, la jeune femme reste sur la réserve, polie mais glaciale. À la fin de l'entretien, le tsar se fait conduire chez le petit prince, qui laisse un compte rendu enthousiaste par un aide de camp qui laisse un compte rendu enthousiaste de l'entrevue. En voyant ce bel enfant, Alexandre l'embrassa, le caressa, l'admira. Excusez-moi. L'admira beaucoup. Il dit des choses flatteuses à Madame de Montesquieu et l'embrassa encore en le quittant. Il embrasse ce petit roi dont il vient de détrôner le père. Le préfet du palais exagère. En réalité, le tsar passe rapidement chez le prince, félicite sa gouvernante sur le bel aspect de son protégé, comme l'écrit fièrement Marie-Louise à son mari. Eh oui, Marie-Louise est très fière que l'on trouve son fils si beau et si bien élevé. Napoléon est tout trait qu'on ait imposé à son épouse de recevoir ses ennemis. Si la visite de l'empereur de Russie est pénible pour l'impératrice, celle du roi de Prusse est encore plus éprouvante. Ses manières sont brusques, ses phrases sèches, c'est un Prussien. Grâce au ciel, sa visite ne dure qu'une demi-heure. Avant de partir, le roi demande lui aussi à voir le petit prince. Pourquoi cette curiosité à l'égard d'un enfant auquel ils ont tout pris, ce royaume, son titre et même ses jouets, et à qui il ne reste que son entourage féminin et ses rêves? Fini les hommages, désormais on vient le regarder un peu comme une bête curieuse. Ils sont quand même obligés de reconnaître qu'il est particulièrement beau, cet enfant qui est le fils de l'ogre, est merveilleusement beau. J'ai la chance d'avoir un petit portrait du roi de Rome, tout enfant. Je l'ai sous une vierge chez moi, à la maison et il était vraiment très très beau et ressemblait comme deux gouttes d'eau au fils de Marie-Antoinette. Son cousin d'ailleurs. Chacun se prépare au grand départ. Marie-Louise avec la vague illusion de rejoindre son mari plus tard. Pour le petit roi, l'excitation d'entreprendre un long voyage lui évite de réaliser qu'il s'éloigne d'un père qui pour l'instant n'est encore qu'à quelques lieues. Il voudrait tant le rejoindre comme on lui avait promis lors du départ d'Orléans. Il demande toujours après son papa, écrit Marie-Louise. De son côté, Napoléon résigné, se soucie de la santé de sa femme, l'engage à se soigner et s'apprête à prendre la route vers le sud. Pour l'instant, il est tout près, Napoléon, il est à Orléans. Il s'apprête à prendre la route vers le sud pour gagner Elbe. Le 20 avril, les adieux de Fontainebleau, immortalisés quelques années plus tard par le peintre Horace Vernet, constituent un des moments forts de la garde impériale. De la geste impériale. Napoléon, en effet, a pleuré en se séparant de sa garde rapprochée, la fameuse garde impériale, et les grognards de la garde impériale, puisqu'on les appelait les grognards, ils grognaient toujours, mais marchaient toujours, les grognards ont pleuré eux aussi. Napoléon les aimait, et lui les aimait, et eux l'aimaient aussi. Nous reviendrons sur tous ces événements plus tard, parce que ça fait partie vraiment de ce qui a marqué les adieux de Napoléon. On comprend pourquoi il a voulu revenir de l'île d'Elbe, Napoléon, pourquoi il a espéré rentrer. Il voulait revoir son fils et reprendre son royaume pour le rendre à son fils, plus que pour lui-même. 3 jours plus tard, Marie-Louise et son fils partent aussi, mais en direction de l'Autriche. Leurs routes ne se croiseront plus. Le comte Kinsky, général autrichien placé à la tête du service d'honneur, a fixé les étapes. Afin d'éviter Paris, le convoi se dirige vers Grosbois avant de poursuivre vers Troyes, Châtillon, Dijon et enfin Bâle. Même si les défections sont nombreuses déjà, 64 personnes, dont 43 domestiques, prennent place dans les 24 carrosses, suivies de 23 fourgons où sont entassés les effets personnels de l'impératrice. Quel drôle de convoi que ces berlines, encore aux armes impériales, encadrées par une escorte autrichienne, contenant les dernières miettes de l'Empire. Marie-Louise conserve près d'elle le fidèle Méneval, M. de Beausset, le général Caffarelli et les écuyers Fouler et Saint-Aignan, Madame de Brignoles et la duchesse de Montebello, qui finit par se résigner à suivre sa maîtresse. Corvisart, tout aussi peu motivé, est également du voyage. Corvisart était le médecin de l'empereur. Corvisart, tout aussi peu motivé, est également du voyage, ainsi que le chirurgien Le Corner. Le reste de la suite se compose de femmes de chambre et autres domestiques. Quant au petit prince, il est accompagné de Madame de Montesquieu, plus dévouée que jamais, de Madame Soufflot, promue sous-gouvernante, et qui emmène avec elle sa fille Fanny, âgée de 15 ans. Suit aussi la tendre Chanchan, c'est-à-dire Madame Marchand, c'est l'aiglon qui leur a donné ses noms, qui aide dans son service par Madame Petitjean, s'occupe de la garde-robe, et par le valet de chambre, Monsieur Gobereau. Il est accompagné de son fils Émile et ils accompagnent les jeux du prince. Bon, ben, la petite Fanny et le petit Émile, Petitjean, s'occupent du prince. Ils sont assez jeunes et jouent avec lui. Madame de Mérigny, ancienne sous-gouvernante, n'accompagne le convoi que jusqu'à Troyes. Eh oui, non, il ne faut pas aller trop loin. Voilà, c'est triste d'une part et puis c'est grave, voilà. Alors, je vais vous quitter pour aujourd'hui, chers amis de Radio Salve Regina. Nous allons continuer le voyage vers l'Autriche, vers Vienne, la semaine prochaine. Je vous souhaite une excellente semaine à l'écoute de notre chère Radio Salve Regina.